Europe 1.
Heures, 18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, bienvenue dans Historiquement Vaut, deux heures où l'histoire se raconte avec le sourire, parfois même avec le fou rire, quand Stéphane Bern est bien chaud, comme l'autre jour quand il s'est mis à nous imiter un officier de la Wehrmacht surpris dans une partouze.
Faites ce que vous voulez, mais ne me touchez pas.
Guten Tag, Stéphane.
Guten Tag, Mathieu. Guten Tag à tous.
C'est-à-dire qu'après moi, vous ne vous souvenez plus des autres gens qui nous écoutent. Il n'y a pas que moi, il y a les auditeurs aussi.
Pourquoi est-ce qu'on parle allemand aux auditeurs? Bonjour chers auditeurs, chaque après-midi dans Historiquement Vôtre, on réunit, vous le savez, trois personnages de l'histoire qui n'auraient jamais pu se croiser, ni en partie fine ni ailleurs, mais qui avaient un point commun aujourd'hui, je vais vous le dire, le goût de la vengeance. Je vous raconte la vengeance d'Isabelle de France face à un roi d'Angleterre qu'elle a fait renverser avant de prendre le pouvoir à sa place. Un roi qui n'était d'autre que son mari, de qui elle voulait se venger. Puis la folle histoire de Sylvain Rubinstein, un danseur de flamenco et résistant qui s'est travesti en femme pour tuer des nazis qui avaient eux-mêmes tué sa sœur jumelle.
On dirait un faux film de Tarantino.
Non, c'est pas drôle. Nazis déjà en 5 minutes.
C'est pas drôle du tout.
Ah non, Je vous assure, c'est une histoire sidérante.
Mais moi, ça m'a glacé le sang. Franchement.
Mais attendez, parce que nous, on n'a pas entendu encore.
Oui,
maintenez le suspense.
Oui. De votre côté, Mathieu, vous évoquerez un personnage plus récent. L'histoire d'une femme qui a partagé la vie d'un président de la République, qui l'a un peu trompée avec une actrice.
Oui.
Du coup, elle s'est vengée de manière assez publique. Vous nous brosserez donc le portrait de...
De Valérie Trierweiler, Stéphane. Oui, Stéphane. Vu le retentissement de cette vengeance, on comprendrait que l'ancien président se soit dit en lisant son livre...
Salope !
Non, François Hollande est un ancien président, il ne pense pas ce genre de choses. Il s'est contenté de se dire « Oh, la pas très gentille du tout ». Je vous raconte effectivement l'histoire de Valérie Trierweiler.
Très bien. Alors, au sommaire, chaque jour, vous savez, lui, il nous entraîne aux origines d'une mode.
D'un objet du quotidien, parfois.
Tout à fait. Aujourd'hui, c'est le casque de moto. Est-ce que vous pouvez voir le lien qu'il y a un petit peu avec votre personnage, Mathieu?
Oui.
Ah, bien sûr.
Ah, oui.
Effectivement, alors, a été...
C'était une sous-catégorie du casque moto qui était le casque intégral, mais tout de même...
le casque intégral de François Hollande.
Exactement.
Effectivement.
Pour escamoter son visage, pour pouvoir aller faire l'amour.
Ça, c'est un de vos talents, de revenir aux origines des objets. Mais vous en avez, je crois, un autre. C'est-à-dire réussir à siffler avec votre gorge.
Tout à fait.
C'est assez étonnant, vous allez prendre un verre d'eau et vous allez nous le prouver tout de suite. C'est sidérant réalisé sans trucage,
Est-ce qu'on l'a filmé parce que non.
Oui, il est très beau en plus quand il le fait, il a un air vraiment très inspiré.
Ça doit être bien utile dans la vie, ça.
Alors, vous pouvez faire au clair de la lune.
Nous passons d'un talent à un autre dans cette émission, Stéphane, puisque c'est comme ça qu'on recrute nos chroniqueurs. À vos côtés, Clémentine Portier-Keltenbach est une historienne réputée, mais aussi une
elle peut
effectivement imiter les castagnettes de flamenco dont on parlera tout à l'heure à la bouche.
Absolument, je fais les castagnettes avec ma langue.
C'est parti.
C'est génial. Je joue d'ailleurs un peu des airs espagnols au piano et je fais les castagnettes en même temps. Je suis une femme orchestre. Vous, bien sûr, aujourd'hui, vous parlez de vengeance et moi, j'entends vous parler de pardon. Hein. Et je vous entraîne dans la chambre d'amis des De Gaulle à la Boisserie à Colombey, les deux églises. Hein. Parce que dans cette chambre d'amis, le général De Gaulle a reçu un seul chef d'État.
Adenauer, non ?
Exactement.
Mais vous êtes toujours les bonnes réponses hors du
quiz. Mais oui, parce que ça, c'est un événement très important, vous voyez. On est en pleine...
Bien sûr.
On pourrait avoir un sentiment de revanche et de rancœur avec l'Allemagne. Et non, il faut préférer la réconciliation. Et quoi de mieux qu'un petit week-end entre amis pour céder
la vengeance, savez-vous, Clémentine, est un plat qui se mange froid. Le plat que nous propose Olivier Poulx cet après-midi aussi.
Bah évidemment.
Il est froid aussi, oui.
C'est dans le thème, non ?
Tout à fait. Alors ?
Et ben voilà, le gazpacho. Mais d'où nous vient le gazpacho ?
D'Andalousie.
Et je vous ferai des
claquettes. Castagnettes.
Et moi, je vous ferai encore plus fort. Essayez de trouver un gazpacho de saison, c'est-à-dire d'hiver. Parce que c'est un plat plutôt estival.
C'est de la soupe, quoi. Bon, d'accord. Allez, on va se coucher.
Vous faites réchauffer des légumes et vous avez un gazpacho chaud.
Et il y a de la viande.
Il y a le gazpacho froid
et le gazpacho évidemment.
Et on met des morceaux de viande dedans, oui, c'est
Stéphane,
ça.
Tout à l'heure, à 5h10, on jouera à Burn to be Alive, ce jeu, ce quiz de culture générale historique où, étonnamment, vous avez moins de bonnes réponses qu'aux autres moments de l'émission. C'est bizarre, c'est un moment où...
C'est beaucoup plus le supplice de la roue que de
de l'histoire. Faut le savoir.
C'est vrai. Mais tout de suite, découvrons les amis notre première vengeance gratinée au cheddar de l'histoire, celle d'Isabelle de France devenue reine d'Angleterre.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Stéphane Bern, comme chacun sait, adore les Anglais.
J'aime le roast beef très cuit.
Ce n'était hélas pas le cas d'Isabelle de France, qu'on a mariée à un roi anglais. Il s'est mal comporté, elle n'a pas aimé, alors elle s'est vengée, comme nous le raconte Stéphane.
Dans la vengeance et en amour, la femme est plus barbare que l'homme, disait Friedrich Nietzsche. Pensait-il en prononçant ces mots à quelqu'un en particulier ? Certains ont peut-être tout de suite un nom qui leur vient en tête. Celui d'un personnage emblématique de la saga des Rois Maudits. Une reine à la personnalité et à la beauté froide et altière comme son père, le beau et implacable Philippe le Bel. Une reine dont on retient aujourd'hui la légende noire, et pas forcément à juste titre d'ailleurs, la Louve de France, reine adultère, à la réputation tyrannique et sanguinaire, j'ai nommé Isabelle de France. En apparence, c'est vrai qu'Isabelle de France n'a rien à envier aux héroïnes vengeresses de la littérature, à la marquise de Merteuil dans Les Liaisons dangereuses, à Hermione dans Andromaque, ou même à Madame de Rênal dans Le Rouge et le Noir. Mais sa vengeance, à elle, eut pour impact de changer le cours de l'histoire au début du XIVe siècle. Une vengeance éclatante et impitoyable, avec pour cible son mari, qu'elle parvint non seulement à renverser, mais à remplacer à la tête du royaume, avec à ses côtés son amant. Sur le papier, pourtant, l'histoire avait tout pour plaire, à commencer par un fastueux mariage royal en 1308 à Boulogne-sur-Mer, ce jour où Isabelle de France épousa Édouard II d'Angleterre, sixième souverain de la dynastie des Plantagenets. Fils du puissant Édouard Ier, conquérant du pays de Galles et de l'Écosse, un mariage venant sceller la paix entre les deux plus grandes puissances occidentales de l'époque, entre la France et l'Angleterre, entre la dynastie des Capétiens et celle des Plantagenets. Mais dès le départ, quelque chose cloche, quelque chose qui scandalise autant la délégation française que la noblesse anglaise. Durant le mariage, le roi d'Angleterre affiche une intimité excessive avec l'un de ses favoris, un gentilhomme du nom de Pierre Gavstone.
Qu'est-ce que vous qualifiez exactement d'intimité excessive, Stéphane ?
Oh, imaginez.
D'accord.
Et cette fantaisie se confirme encore à la cérémonie du couronnement, durant laquelle il accorde à cet homme sans fortune une importance ostensiblement démesurée, lui laissant par exemple porter sa couronne, lui remettre l'épée de Saint-Édouard, privilège auquel un homme de son rang ne pouvait normalement prétendre. Mais Gavstone exerce une influence considérable sur le jeune roi, et ce depuis quelque temps déjà. Une influence qui déplaît fortement aux barons anglais et qui déplaisait tout autant à son père, le roi Édouard Ier. Et d'ailleurs, avant sa mort, le vieux roi avait, pour cette raison, envoyé Gavstone en exil. Un exil de courte durée, puisqu'à la mort du vieux roi, l'année précédant le mariage avec Isabelle, son fils Édouard II s'est empressé de faire revenir Gavstone à la cour. Était-il son amant ? Oh, probablement, Mathieu. Le roi, s'il n'était peut-être pas homosexuel, il aura en tout cas 4 enfants avec la reine, mais rien ne l'empêche, était très probablement bisexuel. Et sans véritablement s'en cacher d'ailleurs, allant même jusqu'à offrir à Gavstone les bijoux qui étaient destinés à sa femme. Un affront pour Isabelle, vous l'imaginez bien. Et ce ne fut pas le dernier. Car si Gavstone est assassiné en 1319 par les barons anglais, exaspérés de son influence auprès du roi, 2 autres favoris le remplacent quasi immédiatement. Hugues le Despenser, père, et Hugues le Despenser, fils. Continuant ainsi à alimenter la colère de la noblesse anglaise et celle d'Isabelle par la même. Non seulement ces nouveaux favoris mettent en coupe réglée le royaume, mais ils semblent prendre un malin plaisir à malmener la reine. Et ceci sans que le roi n'intercède. Ainsi parviennent-ils à baisser ses revenus, à placer ses biens sous séquestre, à chasser ses fidèles de la cour et même à lui ôter la garde de ses propres enfants. C'en est trop pour Isabelle de France. Maintenant âgée de 30 ans, sa frustration de jeune femme s'est muée en une colère sourde, une colère dangereuse. D'autant que la fille de Philippe le Bel a hérité de l'implacabilité de son père, dit-on, que l'on surnommait, je vous le rappelle, le roi de fer. C'est aussi une femme d'une intelligence remarquable à qui
Le roi confie à plusieurs reprises d'ailleurs des missions diplomatiques importantes. Et c'est sous couvert de l'une de ces missions qu'elle va mettre en marche sa terrible vengeance. Une vengeance qui aura pour théâtre son pays natal, la France. En 1325, Isabelle de France fait le voyage jusqu'à Paris afin de négocier auprès de son frère, le roi Charles IV, la fin d'un conflit qui oppose en Aquitaine le royaume de France à celui d'Angleterre. La mission qu'elle conduit au nom de son mari est un succès, mais elle cache un autre dessein. La reine n'a pas l'intention de rentrer et reprendre sagement sa place auprès de son roi de mari. En Angleterre, le contexte est à la révolte. La reine veut en profiter. Elle le sait, le pouvoir royal est terriblement affaibli par le mécontentement des seigneurs anglais. 4 ans plus tôt d'ailleurs, en 1321, une révolte a éclaté en réponse aux faveurs démesurées dont bénéficient les Despenser. Elle a été réprimée, mais la colère gronde toujours. À Paris, Isabelle de France rejoint l'un des barons frondeurs de cette rébellion, Roger Mortimer. Enfermé à la tour de Londres suite à sa participation au conflit, l'homme s'est depuis échappé. Il vit en exil. Lui aussi ne souhaite qu'une chose, se venger. Est-ce cette ambition commune qui les rapproche? Toujours est-il qu'ils nouent une relation très étroite, celle de complices d'un complot, mais également, selon toute vraisemblance, Mathieu, vous l'avez deviné, celle de deux amants. La vengeance est en route.
Vengeance! Je fais bien avec une voix, peut-être, j'espère qu'elle était un peu plus aiguë la sienne. C'est ce qu'aurait crié Isabelle de France à l'intention d'Édouard II, le roi le plus méprisé, peut-être, de l'histoire d'Angleterre, à commencer par Isabelle elle-même, qui s'est vue malmenée par les favoris de son mari. Et ça, elle n'a pas, mais alors pas du tout aimé. Et vous nous disiez, Stéphane, que l'heure de la vengeance avait sonné et qu'Isabelle s'était adjoint les services d'un homme pour parvenir à ses fins.
Oui, Mathieu, désormais en France, Isabelle a réussi avec celui qui est aussi devenu son amant, le seigneur frondeur Roger Mortimer, a levé une armée contre son mari, le roi Édouard II d'Angleterre. Pour ce faire, elle a négocié un accord avec un prince d'un territoire en bordure du royaume de France, le comte de Hainaut. En échange d'une forte somme d'argent et d'une flotte de guerre, elle lui a promis le mariage de leurs enfants, le futur Édouard III d'Angleterre, avec Philippa de Hainaut. En septembre 1326, le plan est enfin prêt. La petite armée de conjurés débarque sur le sol anglais. Édouard II, d'abord confiant face à la taille somme toute restreinte de ses troupes, déchante rapidement. Car leurs rangs sont bientôt grossis par les nombreux seigneurs mécontents du royaume. Et leurs intentions sont claires, renverser le roi. Isabelle, d'ailleurs, par défi, pousse l'audace jusqu'à porter la guimpe de veuve. Vous savez, c'est un voile qui enveloppe sa tête. Sentant le pire arriver, Édouard II et ses favoris, les Despenser, qui, je vous le rappelle, ont malmené la reine, quittent précipitamment Londres. Ils sont vite rattrapés, puis traduits en justice. D'abord, Despenser l'aîné, qui est pendu et décapité. Oui, alors, à l'époque, on faisait pas les choses à moitié. Puis vient le tour de Despenser le jeune. Ce dernier subit pire sévices encore que son père.
Oh non.
Condamné pour haute trahison, il est traîné jusqu'à la Potence, pendu, puis émasculé, éviscéré, décapité et écartelé. Et comme si cela ne suffisait pas, sa tête est exposée sur le London Bridge.
Mais plus aujourd'hui.
Non, si vous prenez le London Bridge, il n'y a plus.
On peut le prendre avec des enfants, il n'y a pas de problème.
Quant au roi Édouard II, son sort est plus clément. Enfin, dans un premier temps. Il est déposé, puis enfermé dans le château de Berkeley, au sud de l'Angleterre. La voie est libre pour Isabelle de France qui profite de sa popularité pour assurer au nom de son fils encore mineur le gouvernement du royaume. Et tout cela, main dans la main, avec son amant. Mais cette popularité ne dure pas. Un parfum de scandale règne autour de son alliance avec Mortimer. Surtout que, rappelons-le, le roi, son mari, est bien vivant.
Oui.
Enfin, pas pour longtemps, direz-vous. Car, comme par hasard, de manière suspicieusement opportune, Édouard II meurt en 1327 dans sa prison de Berkeley. A-t-il été assassiné? Oh, c'est probable. Même si la rumeur selon laquelle il aurait été empalé au fer rouge par le fondement, pardonnez-moi l'expression, elle est probablement fausse.
Oui, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de nous la livrer quand même.
Oui, parce que, voyez-vous, sans doute, certaines mauvaises langues voulaient qu'il soit puni par là où il avait péché.
Quelle époque.
Quoi qu'il en soit.
Quoi qu'il en soit, oui.
Sa mort... Quoi qu'il en soit, sa mort ne profite pas longtemps aux deux amants. Édouard III, le fils désormais majeur, parvient par une rapide révolution de palais à monter sur le trône. Malgré les supplications de sa mère, Roger Mortimer est exécuté. Isabelle, elle, vivra encore 30 ans, écartée du pouvoir, certes, mais vivante et libre.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler d'Isabelle de France, nous sommes avec l'historienne Sophie Brouquet qui lui consacre une biographie qui vient de paraître aux éditions Perrin, Isabelle de France, reine d'Angleterre. Bonjour Sophie Brouquet.
Bonjour.
Oui, bonjour Sophie Brouquet. Reine d'Angleterre, Isabelle de France l'a été après avoir fait renverser puis emprisonner son mari, le roi Édouard II. Mais elle ne l'est rapidement plus lorsque son fils Édouard III est en âge de prendre le pouvoir. En l'écartant et en faisant tuer Mortimer son amant, Édouard III a-t-il lui-même vengé son père ?
Certes, la reine a été un temps écartée du pouvoir, mais 3 mois plus tard, elle est à la cour et elle est très bien traitée par son père qui va la faire chevalière de l'ordre de la Jarretière. Elle va être l'une des premières femmes de cet ordre de chevalerie et il va toujours entretenir d'excellents rapports avec sa mère et notamment l'utilisant pour ses capacités de diplomate au début de la guerre de Cent Ans. Elle sera aussi d'ailleurs utilisée par les Français qui vont plaider leur cause auprès d'elle pour la guerre.
Il l'avait quand même exilée au château de Castle Rising dans le comté de Norfolk,
oui,
un premier temps. Hein.
C'est une captivité dorée hein, quand même.
Oui.
Elle a un orchestre de ménestrels, elle a le revenu le plus important après le roi dans toute la noblesse anglaise, et elle sort régulièrement de son château pour aller à Windsor ou à Londres.
Alors, on va parler dans un instant de cette reine qui s'est vengée de son mari, Isabelle de France, reine d'Angleterre, avec notre invitée Sophie Brouquet sur Europe 1. Tout de suite.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement
vôtre. Ne jamais tromper sa femme, surtout avec deux hommes. C'est un peu la morale qu'on peut retenir de cette histoire d'Isabelle de France, reine d'Angleterre, qui s'est vengée de son mari, le roi Édouard II d'Angleterre. On continue d'en parler avec l'historienne Sophie Brouquet, qui lui consacre une riche biographie.
Oui, alors justement, Sophie Brouquet, tout avait plutôt bien commencé entre Isabelle de France et Édouard II d'Angleterre, parce que sur le papier, en tout cas, ce mariage était idéal. Elle, belle, intelligente, lui, très beau, l'un des meilleurs partis d'Europe. Sont vraiment le roi et ses favoris qui gâchent la fête pour Isabelle de France ?
Oui, ça commence quand même assez mal, puisque dès la traversée de la Manche, hein, le mariage a lieu à Boulogne-sur-Mer, le roi, dès qu'il descend du bateau, se lance dans les bras de son favori, Gaveston, et lors de la cérémonie de couronnement, il s'assied à côté de son favori, alors que la reine est reléguée à une place très très lointaine, et ça plus que le siège du roi est surmonté des armoiries de Gaveston et pas de celui de la fille du roi de France.
Sophie Brouquet, Stéphane a tourné autour du pot avec ce terme de favori. Est-ce que le roi et ce Gaveston étaient tout simplement amants ? On peut dire les choses, c'est avéré.
Alors, non.
Non ?
Non, pas vraiment, dans le sens où tous les deux, ces deux hommes sont mariés et vont avoir des enfants. Et pour Gaveston, ce n'est pas pareil pour Despenser. Pour Despenser, on en est pratiquement sûr. Mm-hmm. Mais pour Gaveston, ce serait plutôt peut-être un amour platonique. C'était dans la chevalerie de l'époque la tradition, enfin, tout se le faisait pas, de se créer des frères de cœur, de sang, et ils avaient probablement fait un pacte d'amitié chevaleresque, et c'est pourquoi d'ailleurs le père d'Édouard II, Édouard Ier, avait chassé Gaveston parce qu'il était furieux que son fils s'allie à un petit seigneur béarnais.
Mais ensuite, alors Gaveston est assassiné par les barons anglais qui lui en veulent de son influence, et il recommence avec les Despenser. Alors le roi est avec le Despenser père et le Despenser fils. Ça fait beaucoup.
Alors,
quand même.
Alors, le despote sœur père, lui, il est âgé et c'est un ancien ministre d'Édouard Ier, puis il a passé par Édouard II. Donc, lui, il a des mœurs, inconnues, mais classiques, je pense. C'est le fils qui, lui, est particulier dans le sens où, autant Gaveston ménageait la reine, autant lui, Despenser, l'a vraiment la traite très mal. Il va même essayer d'ailleurs de la faire assassiner à plusieurs reprises.
Ah oui.
Et par contre, là, on a plutôt affaire à un trio, puisqu'en fait, Despenser a épousé la nièce préférée, mais alors je souligne le préféré, du roi, Éléonore, et il semblerait qu'il y ait plutôt un ménage à trois. En l'occurrence, et on le voit par contre dans les lettres que le roi envoie à sa nièce, où il la traite de sa bien-aimée, dans un sens qu'on ne fait pas à la cour à cette époque-là, et qui était réservé auparavant à Isabelle. Et cette Éléonore, d'ailleurs, c'est à elle que sont confiés les enfants d'Isabelle. Donc, vous pouvez imaginer sa fureur rentrée.
Selon vous, Sophie Bouquet, Isabelle de France, reine d'Angleterre, avait toutes les raisons de se venger de son mari.
Elle voulait surtout se venger des Despenser, en fait. Son mari, elle reste finalement en contact avec lui pratiquement jusqu'à sa mort. Même quand il sera prisonnier, elle lui envoie des cadeaux, de la nourriture, des lettres pendant sa captivité, là aussi dorée, au château de Berkeley. C'est plutôt des Despenser qu'elle va... vouloir se venger. Effectivement, là, quand on voit les supplices qui leur sont infligés, vraiment bien venger.
C'est elle qui décide de ces supplices, pardon, mais c'est elle personnellement ou...
Oui, c'est elle, mais il faut dire que c'est la loi. C'est la loi en Angleterre à cette époque-là, ça n'est pas la loi en France, mais c'est la loi pour le crime de lèse-majesté, d'être éviscéré, pendu, coupé par morceaux. Et ces morceaux, alors pas simplement la tête, la tête était clouée sur le pont de Londres, mais après on avait envoyé des quartiers du corps de Despenser dans toutes les grandes villes d'Angleterre.
Ça n'a plus lieu si on commet un crime de lèse-majesté en Angleterre. Non, il faut le préciser.
Oui, c'est la loi a été révisée.
Si vous moquez. Mais peut-être on va le réintroduire pour vous, Mathieu, si vous moquez de la reine d'Angleterre. Alors, cela dit, dans Isabelle de France, reine d'Angleterre, Sophie Bouquet était surnommée la Louve de France par Maurice Druon dans ses célèbres Rois maudits. Est-ce que vous trouvez qu'elle porte bien ce surnom?
Alors, non.
Voilà, c'est ce qu'il y a au cœur de votre biographie, c'est pour ça que je vous pose la question.
Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'à son époque, pendant et après son mariage, elle est extrêmement populaire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle a pu conquérir l'Angleterre. Elle n'avait qu'une armée de 3000 chevaliers, c'était très peu. Mais dès qu'elle est arrivée, tout le monde, le clergé, les nobles, le peuple, la soutiennent. Elle est donc très très populaire. Elle est populaire en France aussi, d'ailleurs. Et on l'appelle Isabelle la Belle, Isabeau la Belle, mais c'est tout. Et en fait, cette dénomination de la Louve de France va lui venir, et ça c'est malheureux pour elle, d'un très grand dramaturge anglais contemporain de Shakespeare, Christopher Marlowe, qui écrit une tragédie qui s'appelle Édouard II, et qui, lui, l'appelle la Louve de France. Et quand vous avez un auteur d'aussi grande importance qui vous accuble de cette réputation, évidemment, c'est difficile et ça va le garder jusqu'à nos jours, pratiquement.
Pour conclure...
Mais c'est très tard qu'on lui donne ce prénom.
Pour conclure, Sophie Bouquet, est-ce que on a beaucoup parlé vengeance, complot, éviscération. Est-ce qu'on peut retenir quelque chose de positif de son règne?
De son règne, on peut retenir le fait qu'elle a donné naissance au plus grand roi d'Angleterre de tout le temps, peut-être, Édouard III, le vainqueur de Crécy, non moins célèbre, le prince noir, qui d'ailleurs était très attaché à sa grand-mère, le vainqueur donc de la bataille de Poitiers et le plus grand capitaine de la guerre de Cent Ans. Côté français, elle a toujours soutenu et entretenu des amitiés fortes avec ses trois frères. Elle était adorée par son père aussi et concrètement, elle a été une très grande mécène. On possède des manuscrits splendides, somptueux, qui ont été faits pour elle. Elle a encouragé la musique, elle a encouragé la peinture. C'était une femme qui aimait le luxe et le faste. et qui protégeait les églises aussi. Elle était une très grande donatrice. Elle adoptait des orphelins. Enfin, elle a vraiment été, de ce point de vue-là, une grande dame du Moyen-Âge.
Très bien, merci beaucoup. Sophie Brouquet, je rappelle le titre de votre biographie, Isabelle de France, reine d'Angleterre, qui vient de paraître chez Perrin. Merci beaucoup.
Merci.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Tous les jours, dès 16h, Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle, elle nous raconte des histoires dont elle seule a le secret.
Et elle fait le flamenco avec sa bouche.
Oui, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach.
Je sais tout faire. Je peux animer vos soirées dansantes.
Je peux faire c'est vrai que pour shows. La modestie, vous ne craignez pas.
Tout à fait, exactement. Exactement. C'est Eric Satie, hein, je crois qu'il disait ça. Mm. Ouais, pour la modestie, je ne crains personne. Alors, vous, je le disais tout à l'heure, vous parlez vengeance aujourd'hui. Mais non, mais moi, je veux vous parler de réconciliation. Et je vous emmène dans une chambre à coucher.
Ah. On y vient.
Bien fait pour vous. Ah. Alors, dans la chambre d'amis...
Il ne va pas se passer grand-chose. Entre De Gaulle et Adenauer.
C'est la chambre d'amis des De Gaulle à Colombey. Oui. Oui, non, mais c'est une très belle histoire. Si vous voulez, comme en plus, le chancelier allemand Adenauer était né un 5 janvier. Là, c'était son anniversaire hier. Donc, raison de plus pour l'évoquer en parlant de réconciliation. Parce que c'est vrai que le général De Gaulle, qui a quand même s'est battu contre les Allemands pendant les deux guerres, hein, mais quand il revient au pouvoir au 58, il a déjà la conviction que l'alliance franco-allemande doit être le moteur de l'Europe. Alors, il voudrait rencontrer Adenauer, mais c'est Adenauer qui a eu cette idée, qui l'a contacté, qui lui a dit, écoutez, général, il faut absolument qu'on se voit. Où se voit ? À Paris, sous les lambris de l'Élysée, à Berlin. L'Allemagne n'a plus d'ambassade en France au lendemain de la guerre en 45. Hein. Tout a été détruit, occupé pendant la guerre. Il y aura de très très longs travaux de restauration des lieux. Alors, le général de Gaulle, qui veut marquer cette rencontre cruciale du sceau de l'exception, de la confiance et de l'intime, eh bien, se dit, venez donc chez moi. Hein, parce que quand on veut vraiment faire connaissance avec quelqu'un, on l'invite en week-end chez lui. Et alors, il l'invite à Colombey des deux églises. Et vous le disiez tout à l'heure, Stéphane, nul autre chef d'État que le chef d'État allemand Konrad Adenauer n'aura le privilège de passer une nuit dans la chambre d'amis de Charles et Yvonne de Gaulle. Et ça se passe le 14 septembre 1958. Et cette rencontre est marquée par un premier incident resté assez célèbre parce que le chauffeur de Konrad Adenauer se trompe de Colombey. Mmh. Dans la région, il y a 5 Colombey. Il n'y avait pas Waze, exactement. Il y avait la carte Michelin en français. Donc, il se trompe. Il arrive, Adenauer arrive avec 2 heures de retard parce que son chauffeur l'a emmené à Colombey, les Belles. Et alors, de quoi conforter tante Yvonne dans sa réticence de recevoir un Allemand? Elle n'était pas contente du tout. Et elle avait dit à son ami, écoutez, moi, je veux bien recevoir Adenauer, Charles, mais on ne changera rien au menu. Et on mangera dans la vaisselle de tous les jours, hein. Alors, quand il se rend
compte. Sauf que le soufflet, 2 heures après.
Je ne sais pas si elle avait prévu un soufflet au fromage. Ah oui, je me suis pas renseigné sur le.
C'est ça qui nous intéresse.
Ah oui, elle avait dû faire des pieds paquets, c'était ça son truc préféré, avec un petit vin blanc comme l'aimait le général de Gaulle. En tout cas, pour en revenir à des choses un petit peu plus importantes, quand ces deux messieurs se rencontrent, le vieux monsieur, c'est Adenauer à l'époque, parce qu'il a 82 ans. Et tandis que de Gaulle en a 68. Et la guerre pendant que de Gaulle, lui, sillonnait le monde entier à la recherche d'alliés pour libérer la France, eh bien, Adenauer, lui, il était bourgmestre de Cologne et il avait refusé de mettre des croix gammées partout, des drapeaux, des bannières à croix gammées dans sa ville au moment de la visite d'Hitler, ce qui lui a valu d'être révoqué. Il a été mis en résidence surveillée après l'attentat contre Hitler en 44, donc il n'a pas eu une guerre douloureuse, si vous voulez, mais très, très surveillée. Et en tout cas, ils ont tous les deux vécu la guerre, les deux hommes, et puis surtout, ils ont en commun une foi profonde. Et donc, après ce déjeuner concocté par tante Yvonne, eh bien, il y aura entre eux un tête-à-tête de 4 heures agrémenté d'une promenade dans le parc. Parce qu'on le sait, le général de Gaulle, régulièrement, même quand il écrit ses mémoires de guerre, toutes les 2 heures, il sort et il va faire un petit tour dans son jardin. On leur a prévu un interprète, ils n'en ont pas besoin, parce que De Gaulle parle parfaitement bien l'allemand et Adenauer parle parfaitement bien le français. Vous connaissez beaucoup de chefs d'État depuis le général De Gaulle qui s'expriment en allemand. Hein. Il y a eu Jean-Marc Ayrault qui avait été prof d'allemand dans une autre vie, donc il savait parler allemand. Et le général et Giscard d'Estaing qui était né en Allemagne à Koblenz et qui parlait aussi bien l'allemand que l'anglais. Mais enfin, eux, pas besoin d'interprète. Ils évoquent tous les dossiers du moment, naturellement, l'Alliance Atlantique, De Gaulle, la réunification de l'Allemagne. C'est là que va naître le futur traité de l'Élysée et l'amitié franco-allemande. Alors le lendemain, après le petit déjeuner, donc 15 septembre, Adenauer repart. Évidemment, il fait un petit cadeau à Madame de Gaulle. Allez, alors il lui offre une vierge en bois, ça vous aurait fait plaisir sans doute, une vierge en bois du 15e siècle.
Et il l'a mis sur le bon coin le lendemain, le général.
Alors non, mauvaise langue, elle est exposée aujourd'hui encore entre un tapis offert par Mohamed V et la boîte à cigares cadeau de Fidel Castro. Hein. On a tout gardé. Et vraiment, ça a été un événement majeur parce que c'est vraiment là, à Colombey, dans ce week-end, dans cette chambre d'amis, hein, dans cette que va naître la grande et indéfectible amitié entre du couple franco-allemand. Vous m'avez traité comme si j'étais de la maison, lance Conrad à Charles sur le perron de la Boisserie. Et lors de chacun de ses voyages en Allemagne, De Gaulle rendra visite à Adenauer et il disait à ses proches, voyez-vous, c'est le seul que je puisse considérer comme mon égal. En Allemagne, Adenauer, on le surnomme Der Alte, le vieil homme. Et on considère, en 2003, il y a une sorte de sondage et les Allemands l'ont élu le plus grand Allemand de tous les temps. Il y a fort à parier que si on faisait le même sondage en France, hein, le général De Gaulle.
Voilà, on l'a fait.
Et oui, en tout cas, voilà une conclusion un petit peu dans l'élévation pour vous dire que finalement, l'amour est plus fort que la haine hein, et que la vengeance. Vous êtes d'accord, les garçons?
On peut être d'accord avec vous.
On est d'accord sur le principe, mais on va voir ça pour le quiz.
Justement, les derniers seront les premiers, disait la Bible. Depuis des mois, Stéphane Bern, toujours dernier sur deux dans le quiz, se raccroche à ce verset. Prions avec lui pour qu'enfin il soit délivré de la malédiction de la défaite. Le quiz dans quelques petits instants.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
En dehors du quiz, on dirait deux âmes sœurs. Deux êtres en parfaite symbiose, capables de nous fournir en stéréo au pied levé les plus beaux vers de l'art martine.
Suspendez votre cou, laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours.
Okay.
Nous sommes deux sœurs.
Seulement voilà, cette belle gémellité s'estompe. Quand arrive le quiz, ils deviennent alors les pires ennemis. Jouons à Bern to be honest. Stéphane, la première question, vous le savez, est pour vous. En 1964, les chanceux auditeurs d'Europe 1 ont pu écouter en direct, en live, un concert des Beatles. C'était la première fois qu'ils se produisaient hors du Royaume-Uni. Est-ce que Louis-Ferdinand Céline, depuis Meudon, aurait pu écouter ce grand moment de radio ? 1964.
Non, il est mort en 61.
Vous avez...
Bien joué Stéphane, sa veuve Lucette est décédée en 2019. Quant au concert des Beatles, vous vous souvenez
63 ou 64, non?
Non, le concert était en 64.
C'est 64, oui.
Est-ce que vous vous souvenez ce que c'était ce concert des Beatles en France?
C'était à l'Olympia.
Ils ont tout cassé. Sylvie Vartan. Il y avait aussi...
Oui, vous avez raison.
Et moi, j'ai même vu leur contrat d'engagement à l'Olympia, parce qu'il était la propriété de Jean-Michel Boris, qu'il a laissé à ses enfants.
Ce qui est étonnant pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, sans manquer de respect à Sylvie Vartan, c'est que les Beatles étaient en première partie de Sylvie Vartan, qui était la vedette de la soirée.
Exactement.
Question numéro 2 pour vous, Clémentine. Avant, l'État français offrait gratuitement aux troupes de l'armée française des gauloises, et sur le paquet de cigarettes, à la place du casque gaulois, c'était un casque de soldat. Vrai ou faux?
Il y avait pas la mention caporal ces cigarettes? Ça me dit quelque chose, cette histoire de casque. Oui, je pense que c'est vrai. C'était peut-être un casque à drillon pendant les années de guerre, pour les cigarettes qu'on donnait aux troupes. Je dirais oui.
Vous avez gagné!
Vous avez tout à fait raison, c'est Simone Veil qui a mis fin à cette pratique en 1975. Avant, il y avait effectivement sur les paquets de cigarettes gaulois, le casque gaulois, c'était pas un casque gaulois comme nous on l'a connu, les gens de ma génération, c'était un casque de soldat. Stéphane, vous n'avez jamais fumé?
J'ai jamais fumé.
Vous n'avez aucun vice, hein?
Si.
Caché alors.
Caché.
Très bien. Question numéro 3 pour vous Stéphane, justement. Au XVIIIe siècle, on parlait parfois d'un guerluchon. Mais qu'est-ce que c'était qu'un guerluchon ? L'amant d'une femme mariée ou un homme multipliant les conquêtes masculines ?
Un guerluchon. Ça fait penser un peu à Guéluron.
Oui. J'irais plutôt deux, oui.
Un homme multipliant les conquêtes masculines.
Vous avez perdu.
Perdu, Stéphane. La réponse, l'amant d'une femme déjà mariée. On disait aussi greluchon. Parfois, on disait qu'on payait les dettes de son guerluchon. C'est un peu l'ancêtre du gigolo. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. Alan Pinkerton est un pionnier. C'est l'un des premiers gros détectives privés américains, connu pour avoir créé la Pinker National Detective Agency au 19e siècle. Il a eu son heure de gloire en empêchant un complot visant à assassiner Abraham Lincoln. Sa mort aussi fut particulière car en 1884, il s'étouffe avec une pâtisserie. Vrai ou faux ?
Écoutez, ce gars-là est absolument inconnu au bataillon. S'il n'est pas mort en s'étouffant avec une pâtisserie...
Stéphane dit non. Hein.
Ah, vous le connaissez vachement bien. Oh non, ouais, menteur, oh, le bluffeur, espèce de guerluchon. Je dirais non, je dis non. Oui, il est mort, oui, il est mort en mangeant une pâtisserie.
Vous avez perdu.
C'est faux. Stéphane, vous connaissez la réponse puisque vous connaissez bien Alan Pinkerton. Vous lui avez consacré d'ailleurs une biographie très intéressante, moi et Alan. Rencontre. Oui.
En fait, il s'est mordu la langue et il est mort.
Il est mort comme Mallarmé d'un spasme de la glotte.
Il s'est mordu
je serais à deux doigts d'octroyer un point bonus à Stéphane, ce que je ne ferai pas. Il s'est mordu la langue. Ouais, effectivement, ça s'est transformé en gangrène.
Mais vous avez lu ma biographie, honnêtement.
Trois semaines plus tard, il est mort. Il a légué à ses fils, ses trois fils, son agence de détective qui existe toujours, figurez-vous, et a été rachetée par des Suédois, mais compte encore plus de 48 000 détective. Ouais. Stéphane, vous connaissiez cette agence. Peut-être vous avez recours au service de cette agence de détective privée.
Oui, pour débusquer les guerluchons.
Qui sont nombreux à faire le pied de grue devant chez vous.
Question, prendre en photo.
Question.
Tiens, un guerluchon.
Hors de ma vue, guerluchon. En route vers la modernité avec Stéphane.
Guerluchon.
Question numéro 5, celle-ci. C'est la question de rapidité qui va vous départager. Le 30 mars 1981, John Warnock Hinckley Jr. tente d'assassiner Ronald Reagan. Mais pourquoi ? Trois propositions. C'était parce qu'il avait entendu Mickey Mouse lui dire de le faire. C'était pour plaire à l'actrice Jodie Foster ou c'était pour que le championnat de baseball soit annulé parce que son équipe favorite, les Sooners, était avant-dernière au classement.
La 2, moi j'irais la 2, non, c'est pas Jodie Foster.
Mickey Mouse, Jodie Foster, découvrons qui gagne. Une victoire de plus pour Clémentine Portier-Kaltenbach. C'est donc, d'après Stéphane Bern, éminent historien, à cause de Mickey Mouse qui lui aurait passé un coup de fil, que John Warnock Hinckley Jr. aurait tenté d'assassiner Ronald Reagan.
Oui, mais que voulez-vous faire de l'histoire très grande.
Qu'est-ce qu'il lui aurait dit ?
Non, je n'aime pas beaucoup ce président, j'aimerais bien que tu le butes.
Non, mais vos questions dans le quiz sont parfois tellement débiles que je me dis, je vais gagner si je donne la réponse la plus débile qui soit. Et parfois ça marche.
Eh bien non, c'était pour plaire à Jodie Foster, figurez-vous. On peut comprendre, elle avait 18 ans. On avait envie de lui faire plaisir à Jodie. Victoire, magnifique victoire de Clémentine, qui elle respecte les questions de ce quiz. Et c'est pour ça qu'elle gagne.
Europe 1, historiquement vôtre.
Quand j'ai accepté de présenter cette émission avec Stéphane Bern, qui est beaucoup plus connu que moi, savais que je prenais un risque, mais Stéphane avait su me rassurer. On travaillera d'égal à égal, m'avait-il dit, et dans la presse, je veillerai à toujours parler de toi en bien. Quelle ne fut donc pas ma surprise de lire, Stéphane, vos propos sur notre duo dans Ouest France hier.
Il y a un rapport de maître à esclave, de suggestion aussi de l'un envers l'autre.
Je me vengerai, Stéphane.
Alors, prenez conseil auprès de nos personnages du jour, Mathieu, des rois de la vengeance. Après Isabelle de France, je vais vous raconter l'histoire méconnue et pourtant complètement dingue de Sylvine Rubinstein, un danseur de flamenco qui s'est déguisé en femme pour mieux atomiser les nazis qui lui ont enlevé sa sœur jumelle. Quant à vous, Mathieu, vous nous parlerez d'une autre forme de vengeance d'une femme, une vengeance littéraire, celle-là.
Oui, Stéphane, elle aussi, elle aime atomiser, disperser façon puce aux quatre coins de Paris. Valérie Trierweiler a choisi la vengeance publique et répétée à l'encontre de son ex-compagnon François Hollande, une compagne bafouée dont un proche commente avec malice « Elle a réussi le prodige de rendre Ségolène Royal sympathique. »
Chapeau.
C'est vous qui le dites, Stéphane. Moi, personnellement, je ne veux pas me mettre à dos Madame Royal.
Non, moi non plus.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Vous êtes au cœur de 2 heures d'histoire totalement décomplexée. Ou dans 3 secondes, attention, je préfère vous prévenir Mathieu,
oui.
Je vais crier très fort. Vengeance !
Effectivement, c'était très fort. Alors, à la question que vous posez légitimement, si vous nous rejoignez à l'instant et que vous avez manqué la première heure, je vous réponds, n'ayez crainte, Stéphane Bern n'est pas devenu totalement zinzin. Il tente juste d'illustrer notre thème du jour, ces personnages de l'histoire dont la vengeance fut terrible.
Vengeance !
Oui, je crois qu'on a bien l'idée, Stéphane. Après Isabelle de France, vous nous racontez le destin. Il en tousse. Il n'a jamais crié aussi fort, Stéphane. Il est toujours dans la nuance, dans la pondération. Donc, il n'est pas habitué
là, je joue
à crier
un
comme ça. Il joue. Et donc, il tousse. Après Isabelle de France, vous nous racontez, Stéphane, le destin à peine croyable d'un homme qui s'est déguisé en femme pour tuer des nazis.
Oui, c'est sa manière à lui de venger sa sœur jumelle tuée par des nazis pendant la guerre. Il était danseur de flamenco, il était juif et il s'appelait Sylvain Rubinstein. Une histoire folle, vous allez voir. De votre côté, Mathieu, vous évoquerez une figure plus récente de l'histoire de la vengeance, plus vivante aussi, une vengeance encore chaude, si j'ose dire.
Effectivement, Stéphane, Valérie Trierweiler reste un volcan actif pour François Hollande. On se souvient de la trahison, du scooter, Julie Gayet, tout ça. Son livre, Merci pour ce moment, avait fait grand bruit. Elle en avait remis une couche dans les interviews où le pardon ne semblait toujours pas à l'ordre du jour. Retour sur une vengeance moderne, publique et assez interminable.
Alors, sans oublier nos chroniqueurs. On va parler de... Vous savez que la vengeance, c'est un plat qui se mange froid.
Comme le gazpacho.
Comme le gazpacho avec Olivier Pouls.
Eh bien, vous avez tout dit, les amis. Et avec une recette de gazpacho de saison, s'il vous plaît.
De saison, mais c'est que vous pouvez déjà...
On est en hiver, je vous rappelle.
Donc, non, je sais qu'on est en hiver, il est bête. Je te demande le légume.
Potimarron.
Carottes. Lait de coco et épices. Ah oui. Et à manger froid.
Très bien.
Le mot de la fin, les amis, reviendra comme toujours à Stéphane Bern. Oui. L'origine d'une expression aujourd'hui, d'où vient le mot hécatombe ?
Bah oui, cette saison.
Vous pensez à qui, Stéphane ?
Non,
à
mais.
À tous vos amis qui vous ont quitté récemment ?
Oui, d'une part, vous savez, j'ai perdu beaucoup d'amis ces derniers temps.
Et oui, Pierre Cardin.
Ils étaient tous un agénaire, je reconnais.
C'est vrai.
Robert Hossein, que j'aimais aussi. Beaucoup. Claude Brasseur aussi, Claude Bolling.
Qui nous écoute certainement là-haut.
Ouais.
Rick Azaray, vous avez oublié Rick Azaray, Stéphane.
Oui, je l'écoutais moins. Enfin, je veux dire.
C'est un bel hommage aussi
pourtant,
à votre manière.
J'ai fait aussi des bains de siège à un moment, mais.
Enfin, il est clairement notre caution jeune. Et quand pour illustrer le mot jeune, tu utilises un sample d'un tube de 2001, c'est que vraiment, tu as urgemment besoin d'une caution jeune. Oui, il est ce pont vers les millennials qui doit nous permettre de rapatrier sur Europe 1 les jeunes déçus de Fun Radio. À son entretien d'embauche, il a su nous prouver qu'il était l'homme de la situation.
Moi, je tiens à dire que j'ai plusieurs amis wesh wesh.
David Castello-Lopez, vous êtes le jeune de la bande et vous nous racontez chaque jour les origines d'un objet du quotidien.
Tout à fait, aujourd'hui, le casque de moto qui permet de moins mourir quand on fait de la moto.
Mais attends, excusez-moi, mais avant de déflorer votre chronique, mais à quel moment est inventé le casque ? Vous n'avez pas le droit de le dire ? Le casque n'a pas été inventé en même temps que la moto.
Ça a été progressif et on a mis du temps à se rendre compte que c'était important.
Tout de suite, découvrons notre deuxième vengeance hors norme de l'histoire, celle d'un danseur juif nommé Sylvain Rubinstein qui, devenu résistant, cachait des grenades sous sa jupe de flamenco.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Certains ont trouvé le film Inglourious Basterds de Quentin Tarantino un peu tiré par les cheveux. Pourtant, même Tarantino n'aurait pas pu imaginer l'histoire vraie d'un danseur juif qui va se venger des nazis à coups de grenade qu'il a planqué sous sa jupe. Dans notre grande série « Quand la réalité dépasse la fiction », Stéphane nous raconte l'histoire de Sylvain Rubinstein.
Notre histoire commence à Krosno, au sud de la Pologne en 1942. Comme tous les soirs, il y a foule au Deutscher Hof, une brasserie huppée du centre-ville. Peut-être même plus encore qu'à l'accoutumée. Les SS, qui ont leurs habitudes depuis qu'ils occupent la ville, ont une occasion à fêter, un mariage. On danse, on rit, un véritable festin s'étale sur les tables, l'alcool coule à flot. Une femme entre dans la salle, elle est grande, élancée, soigneusement maquillée, elle bouge et s'avance de manière gracieuse à la manière d'une danseuse classique. A-t-elle été invitée à la fête ? Est-elle l'une de ces habitantes des environs convoquées par les nazis pour les divertir ? Les esprits sont si avinés que personne ne remarque lorsqu'elle plonge la main dans son panier.
Personne non plus ne la voit déposer discrètement au sol deux objets métalliques, deux grenades qu'elle vient de dégoupiller. Ce fut un mariage sanglant. 60 ans après les faits, c'est dans ces termes que Dolores relate l'attentat dont elle reconnaît désormais en être l'auteur. Sans ciller, sans remords. La colère brûle encore dans ses yeux vieillis et sous ses traits creusés. Les yeux d'un homme de plus de 80 ans désormais. D'un homme, oui. Un homme travesti en femme qui a emprunté le nom de scène de sa sœur jumelle. Sylvine Rubinstein, de son véritable nom, un danseur de flamenco juif devenu résistant pendant la guerre. Poussé au crime par la barbarie nazie et par l'insurmontable perte qu'elle lui a causée. Non, Sylvine Rubinstein n'est pas un personnage de fiction, il a véritablement existé et il est resté des décennies durant totalement anonyme, oublié des livres d'histoire, et ce, malgré un destin hors du commun, quasi invraisemblable. D'ailleurs, quand il se décide enfin à raconter son histoire à un journaliste allemand au début des années 2000, un certain Kuno Kruse, personne ne croit véritablement à son récit. Dans un premier temps, en tout cas, car les faits sont là. Une fois croisé, vérifié, il confirme ses dires. Il dessine les contours d'une vie à peine croyable, une vie de roman dont seule la réalité a le secret. Savez-vous, Mathieu, ce qui différencie la réalité de la fiction ? La fiction, elle, doit être vraisemblable. C'est beau, non ? C'est pas de moi, c'est de l'écrivain et humoriste américain Mark Twain.
Oui, c'est une règle de base des scénaristes aussi, hein. Il faut que ça soit vraisemblable.
De tous les récits que je vous ai contés jusqu'ici dans cette émission, je ne crois pas qu'il y en ait un qui illustre mieux cet adage. Et encore, je ne vous ai pas encore dit quoi que ce soit sur Sylvine Rubinstein. Les victimes de l'attentat de la brasserie sont loin d'être les seules à son tableau de chasse de résistants. Et son histoire de vengeance s'apparente en effet davantage au scénario de Inglourious Basterds, le film de Tarantino dont vous parliez en présentant le personnage, qu'à un récit historique. L'histoire commence aussi par un drame familial, par la perte de membres d'une famille assassinés par le régime nazi. Sylvine Rubinstein a 25 ans quand la Seconde Guerre mondiale éclate. Il est le fils d'une danseuse polonaise juive et d'un duc russe aristocrate chrétien exécuté par les bolcheviks. Il vit en Pologne avec sa sœur jumelle Maria. Les deux forment un duo inséparable, et ce, à la ville comme à la scène. Ils sont danseurs de flamenco. Depuis quelques années, ils rencontrent beaucoup de succès, se produisent sur les plus grandes scènes d'Europe, de Varsovie à Londres, de Budapest à Paris, mais aussi à Berlin. Sous leur nom de scène, Imperio y Dolores. Imperio, c'est lui. Dolores, c'est elle. Dolores comme douleur, en espagnol. Ce que eux ne sont pas, évidemment. Un surnom prémonitoire, malheureusement, qui laisse présager de la menace qui plane sur l'Europe et du drame à venir. Leur carrière est brutalement compromise par les lois antisémites qui interdisent aux artistes juifs de se produire sur scène en Allemagne. Ils retournent en Pologne, bientôt envahis par les troupes allemandes. Sylvine et Maria sont contraints en septembre 1939 de déménager dans le tristement célèbre ghetto de Varsovie. S'ils parviennent à s'en échapper assez rapidement, Maria, elle, ne parvient pas longtemps à se dérober aux griffes du régime hitlérien. Partie rejoindre sa mère dans le village polonais de Brody, les deux femmes sont déportées dans le camp d'extermination de Treblinka, où elles sont exterminées. Sylvine Rubinstein, restée se battre au sein de la résistance, enrôlée par un officier anti-nazi de la Wehrmacht, ne se remettra jamais véritablement de la perte de sa sœur jumelle, son alter ego féminin. Ce qu'il faisait jusqu'alors par patriotisme, son combat contre le régime nazi, il le fera dorénavant par vengeance. Tursky, c'est son nom de résistant, est habité désormais d'une haine sans borne, qui fait de lui, selon ses propres mots, une hyène. Un meurtrier sans peur, qui emporte partout avec lui une capsule de cyanure au cas où il se ferait prendre. Les actions de sabotage, les vols et les détournements de denrées alimentaires qu'il commettait jusqu'alors se muent dorénavant en opérations plus périlleuses, plus radicales surtout. Des meurtres, des attentats, en Pologne puis en Allemagne. Difficile de savoir exactement combien de nazis il a tué, combien d'assassinats il a fomenté. Par peur de poursuites judiciaires, il n'a jamais voulu tout révéler. mais il y en a beaucoup, assurément. Son secret, pour ne pas attirer l'attention et faire le maximum de dégâts, il se déguise en femme. Comme lors de ce fameux mariage sanglant, ou comme en 1944 quand il assassine en pleine rue un officier de la Gestapo, le pistolet caché dans un bouquet de fleurs qu'il tient à la main. Est-ce Maria qu'il personnifie en se travestissant ainsi en femme? C'est elle en tout cas qu'il continue de faire vivre en faisant sien le nom de Dolores, en poursuivant après la guerre sa carrière de flamenco, mais sous les traits d'une femme vêtue d'exubérantes robes de flamenca. Jusque dans les années 70, c'est dans la peau de ce personnage qu'il se produit dans les bars et les discothèques du quartier de Sankt Pauli de Hambourg. Mais la guerre ne le quittera jamais vraiment, et sa soif de vengeance ne sera jamais étanchée. Son combat contre les nazis, il le poursuit quelques années encore, d'une manière tout à fait singulière, plus discrète, en les appâtant avec de vieilles reliques du Troisième Reich qu'il expose dans la vitrine de la brocante qu'il ouvre à Hambourg. Plus question de tuer désormais, mais il suit ses proies jusque chez eux, puis il les passe à tabac. Dans ces conditions, il n'est pas étonnant que Sylvine Rubinstein, qui est décédée en 2011, soit si longtemps restée dans l'anonymat. Qui aurait pu se douter que sous les traits de ce danseur de flamenco travesti à la retraite, devenu icône du quartier rouge de Hambourg, se cachait en fait l'un des plus féroces résistants juifs? Personne. Pas même le journaliste allemand qu'il a par hasard découvert un soir lors d'un reportage sur les artistes de cabaret.
Europe 1, historiquement vôtre.
Alors, des histoires incroyables, on en a entendu quelques-unes à ce micro, mais alors celle-ci dépasse l'entendement. Pour continuer à parler, à mieux comprendre cette histoire complètement folle, nous sommes avec la journaliste et auteure qui la raconte dans un livre qui paraît aujourd'hui. Bonjour Marie Charelle.
Bonjour.
Vous avez donc consacré un livre qui s'appelle « Les danseurs de l'aube » aux éditions de l'Observatoire à cette histoire de dingue. On en parle avec vous dans un tout petit instant sur Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre et nos vengeurs de l'histoire continuent, des vengeurs pas masqués mais carrément travestis. C'était le cas en tout cas de Sylvine Rubinstein qui s'est déguisée en femme pour affronter les nazis. On en parle cet après-midi avec notre invitée Marie Charelle.
Oui Marie Charelle, vous êtes journaliste au Monde et vous publiez aujourd'hui Les danseurs de l'aube aux éditions de l'Observatoire. Vous le dites d'ailleurs en préambule, Sylvine Rubinstein a réellement existé. Dans cette œuvre de fiction, il est devenu mon personnage. C'est vrai que c'est important de le préciser tant l'histoire nous paraît à peine croyable. Qu'est-ce qui vous a interpellé dans ce personnage et vous-même, est-ce qu'il y a des éléments qui vous paraissaient invraisemblables?
Alors, vous l'avez bien dit dans la présentation en citant Mark Twain, c'est que tout est fou dans l'histoire de Sylvine Rubinstein. Tout est romanesque. Le roman était déjà là. Vous savez, les script doctors, ceux qui conseillent les scénaristes américains, disent que dans une fiction, il ne faut pas plus de un ou deux événements invraisemblables, des coïncidences complètement folles, sinon le spectateur ou le lecteur n'y croit pas. Mais la vie de Sylvine Rubinstein, c'est ça, tout le temps. Quand sa mère va se sauver de Russie pour fuir la révolution avec les bijoux cachés dans les manteaux, plus tard quand lui va s'échapper des geôles nazis, plusieurs fois il va s'échapper du ghetto, il va rencontrer par hasard ce résistant de la Wehrmacht devant un cireur de chaussures, et l'homme va dire « merde à Hitler ». Donc, ça c'était tellement romanesque, tellement fou, que il y avait déjà un roman, et c'est vrai qu'on peut se dire, mais c'est comment cet homme a pu survivre et échapper au filet nazi déguisé en femme, et pourtant, c'est vrai.
Et alors, s'il n'a pas parlé pendant longtemps, c'est parce qu'il craignait des représailles de la justice, notamment, puisqu'il a commis des assassinats. Il avait peur, et il a attendu très très longtemps avant de révéler son incroyable histoire.
Alors, je ne crois pas. Sylvie Rouichin, ce n'était pas le genre de type à avoir peur. Je pense que c'est plutôt qu'il avait un rapport ambivalent avec l'Allemagne. Il a dit à plusieurs reprises aux journalistes qu'il a interrogé après, il détestait ce pays. Donc je pense plutôt que c'est qu'il ne pouvait pas vouloir être un héros dans ce pays avec lequel il avait cette relation compliquée. Et puis je pense qu'il n'avait que faire des médailles et des décors, c'était vraiment pas son genre.
Mmh. Mais ce qui est étonnant, quand il se confie à ce journaliste allemand, Kuno Kruse, il se confie avec froideur, il n'éprouve jamais aucun remords. On se demande comment psychologiquement, il a pu vivre toutes ces années avec le poids, ce poids énorme sur le cœur et sur les épaules.
Ce qu'il faisait tenir, il y avait le souvenir de sa sœur, le fait qu'il voulait la faire vivre à travers lui, à travers la danse. La danse l'a aidé à tenir aussi. Et je crois que d'une certaine façon, sa vengeance, c'était d'être encore en vie, d'avoir survécu à cette machine terrible qui a anéanti tous les hommes et les femmes comme lui du Yiddishland, bah lui, sa résistance, c'était aussi d'avoir survécu. Et cette froideur, cette dureté qu'il avait, c'était aussi pour tenir, je pense. À un moment, il s'est construit une espèce de carapace très dure pour supporter ce qu'il a vu, ce qu'il a fait aussi.
Alors, il est décédé en 2011 à l'âge de 96 ans. En tant que journaliste, ça aurait été quoi la première question que vous lui auriez posée si vous aviez eu la chance de l'interviewer?
Alors, je lui aurais demandé pourquoi il n'a pas gardé contact avec Kurt Werner, qui était donc cet officier allemand résistant de l'intérieur au nazisme, qu'il a rencontré un jour comme ça par hasard, qui est devenu son ami. Kurt, c'était un peu une figure paternelle aussi parce qu'il était plus âgé, donc ils ont travaillé ensemble avec ce réseau de résistance, en lien avec la résistance polonaise, à monter des coups, à voler de la nourriture, à tuer des nazis. Ils étaient très proches et pourtant, après la guerre, ils ont complètement coupé les ponts. Il nourrissait une telle rancœur à l'égard de l'Allemagne qu'il avait peur que finalement cette rancœur contamine ou pollue son amitié pour Kurt Werner. Mais je trouve ça un peu étrange parce que quelque part c'était là ce qui lui restait de plus proche d'une famille et pourtant il a préféré ne plus jamais le voir.
Vous avez, pour écrire ce livre, qui raconte d'ailleurs en détail cette folle histoire, vous êtes parti sur les traces de Sylvine Rubinstein, vous êtes allé à Hambourg. Lui n'est plus là, mais il reste quoi un décor?
Un décor, il reste une petite plaque dans l'immeuble où il a vécu. Il reste son souvenir, qui est encore fort dans le cœur de ses amis, et notamment de ce journaliste dont il était très proche à la fin de sa vie. Et puis, quand on se promène dans les rues de Sankt Pauli, moi, je me suis plus à imaginer qu'il était un peu là, quelque part. Son esprit excentrique planait sur ces rues de plaisir.
Ce qui est fou, c'est de penser qu'il a pu faire tout cela en parfaite impunité. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il risquait sa vie à chaque acte. Et à aucun moment, il a été démasqué, il a été...
Alors, il a été souvent proche d'être démasqué, parce qu'il a été arrêté plusieurs fois, en tout cas au tout début de la guerre. Et puis après, il était très inquiet quand il était à Berlin et qu'il continuait ses activités de résistance. Il y a plusieurs fois où il se sentait suivi, où il avait peur. Et à chaque fois, par une chance incroyable du destin, il est passé à travers les mailles du filet. Ce qui n'est pas le cas de sa famille. Donc,
Mais il était surtout très discret, puisqu'il ne parlait à personne.
En effet.
Il ne s'est jamais vanté à personne de ses agissements.
Non, parce que déjà, en effet, il était très seul. Je pense qu'il n'avait aucun intérêt à parler. Pourquoi se confier, puisqu'il n'avait plus vraiment de proches, il n'avait plus de famille, et il se concentrait sur la danse et sur la mémoire de sa sœur qu'il faisait vivre.
C'est une histoire incroyable, mais vraiment, je merci beaucoup de Marie Charelle pour vous plonger dans la folle histoire de Sylvine Rubinstein. J'invite tous nos auditeurs à lire votre roman qui vient tout juste de paraître, Les Danseurs de l'Aube, aux éditions de l'Observatoire. On a tous été très émus et assez bouleversés par cette histoire. Merci beaucoup, Marie Charelle.
Merci beaucoup.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on évoque les vengeances marquantes de l'histoire. De l'histoire lointaine avec Isabelle de France, reine d'Angleterre. De l'histoire plus proche de nous avec Sylvine Rubinstein, le danseur de flamenco résistant. Et même de l'histoire très très récente avec votre portrait à 99% vrai, Mathieu, de l'ex-première dame, la journaliste Valérie Trierweiler.
Effectivement Stéphane, et comme je m'apprête à relater ma vision de l'histoire d'un homme et une femme qui peut-être nous écoute, sachant également que vous êtes de notoriété Stéphane, un grand ami de l'actuelle première dame, et qu'en prime vous avez remplacé quasiment poste pour poste Valérie Trierweiler à Paris Match, dont elle a été évincée, il nous faut en préambule signaler que ni vous ni moi n'avons de hostilité a priori contre le personnage de Valérie Trierweiler.
Elle a beaucoup grossi.
Oui,
ses toilettes sont horriblement démoniaques.
Non, Stéphane, ni
pas
a priori,
d'elle,
ni a posteriori. Les faits, rien que les faits, s'il vous plaît, un peu de tenue. L'histoire, on la connaît, 2012. François aime Valérie, Valérie aime François, et Valérie aime que François montre qu'il aime Valérie. Sur la bouche, qu'elle lui dit le soir de son élection. Bref, c'est la période François-Valérie. Il rêve en bleu, il dream in blue et en rose, car François vient d'être élu président de la République et place de la Bastille, on lance des roses en l'air, roses qui retomberont 5 ans plus tard sur la tombe du Parti Socialiste dont le corps sera exhumé du 10 rue de Solferino pour être incinéré à Ivry-sur-Seine. En 2012, donc, François Hollande et Valérie Trierweiler sont encore éperdument amoureux. Hélas, le couple éclatera en plein mandat 2 ans plus tard, suite à un comportement de François Hollande que d'aucuns jugeront indélicat. mais qui a le mérite de correspondre à l'esprit des statuts du Parti Socialiste tel que défini en 2008. Je cite l'article 1, « Être socialiste, c'est ne pas se satisfaire du monde tel qu'il est, c'est vouloir changer de société et de meuf », a juste ajouté au big François. C'est le funeste épisode dit du livreur Deliveroo, où le président arrive discrètement en scooter chez sa maîtresse, l'actrice Julie Gayet, sous les flèches des paparazzi. Valérie est, on peut le comprendre, furax, choquée, elle va souffrir, elle va aussi se venger. Car comme le dit le poète...
On peut tromper 1000 fois une personne, mais on ne peut pas tromper... Si, on peut tromper une fois une... Non, on ne peut pas tromper 1000 fois 1000 personnes, mais on peut tromper 1000 fois 1000 personnes.
J'adore Lamartine, moi.
Avant de remonter le fil de cette trahison, un mot biographique de Valérie Trierweiler. Elle voit le jour à Angers en 1965. Assez vite lassée des visites dominicales au musée de l'Ardoise, des pommes tapées et du Cointreau, elle décide de conquérir la capitale. Jusque-là, vous la comprenez parfaitement, Stéphane, vous qui me disiez hors antenne, qu'est-ce que tu voulais qu'elle foute dans le Maine-et-Loire ?
Oh non !
Ah si, vous me l'avez dit !
Oh non,
à Paris,
Angers.
Valérie décroche un diplôme de sciences politiques et devient journaliste pour le magazine Profession Politique, puis pour Paris Match en 1989, où elle couvre des dossiers politiques, notamment en suivant le Parti Socialiste. Non, François n'est pas encore là, pas encore, c'est un autre François, Mitterrand, qui réside alors à l'Élysée, interviewé et visiblement pas insensible aux compétences journalistiques de la jeune Valérie. Il lui propose, je cite, « un déjeuner en tête-à-tête à l'Élysée ». La légende dit qu'il terminera l'entrevue par cet élégant appel du pied. Maintenant, vous connaissez le chemin. Émoji clin d'œil aubergine. Ne bavez pas sur votre chemise Figaro, Stéphane, ça n'ira pas plus loin. Valérie passe grand reporter et réalise en 92 un reportage sur Ségolène Royal à la maternité de l'hôpital militaire Béguin de Saint-Mandé pour la naissance de sa fille, dont le père n'est autre que... Mais oui, le destin commence à les rapprocher, mais pas encore intimement. Valérie épousera Denis Trierweiler, secrétaire de rédaction à Paris Match, quelques années plus tard. Participe ensuite à la création de Direct 8, anime divers programmes sur la chaîne. Et en 2006, Cupidon décoche sa double flèche. Valérie et François sont touchés en plein cœur, ils sont tous les deux mariés, mais enivrés par l'interdit, la passion, ils commencent à se bécoter en secret. Très vite cependant, Valérie se refuse à devenir une sorte d'Anne Pinjot 2.0. Elle entame donc une procédure de divorce dès 2007. Probablement un peu pris à la gorge, mais comprenant que Valérie ne déconne pas, François annonce lui aussi qu'il se sépare de son épouse. Il faudra tout de même attendre 3 ans pour que Valérie et François officialisent leur histoire. La suite, on la connaît dans les grandes lignes, élections, cérémonies, défilés d'un couple présidentiel normal, dont la mise en scène de normalité insupporte d'ailleurs assez vite Valérie, comme on le découvrira dans son livre « Merci pour ce moment » quelques années plus tard, un de ses pires souvenirs, leurs vacances normales. Elle écrit « Je dois subir la comédie de notre départ en train, les vacances d'un président normal sont dramatiques. » Mise en scène par la communication de l'Élysée devant des dizaines de caméras et de photographes massés sur les quais de la gare de Lyon suivant notre TGV. Surtout, ajoute-t-elle, ce jour-là, un musicien portugais à l'espace interbucodentaire un peu dérangeant a tenu à nous présenter son projet pour redynamiser l'identité sonore de la SNCF. C'était gênant, conclut-elle, page 112. Des ressentiments qu'il faudra attendre ce livre en 2014 pour découvrir, mais dès juin 2012, au détour d'un tweet, la France comprend que Valérie n'est pas une femme qui peut être muselée. Tweet dans lequel Valérie Trierweiler soutient Olivier Falorni, le candidat opposé à Ségolène Royal au second tour des élections législatives. Elle tentera de noyer le poisson en déclarant à Femme Actuelle « Oh, François me fait totalement confiance, sauf pour mes tweets !» En lisant ça, François fait mine de rire aussi, mais du même rire, prélude à l'étouffement que Stéphane lorsqu'il a découvert le montant de son impôt sur le revenu 2020. À l'été 2014, François et Valérie font vacances à part. En janvier, Valoche et Françou tentent de donner le change lors de la traditionnelle galette des rois de l'Élysée. Moins de 48 heures plus tard, Closer dévoile les photos de ce qu'on appelle encore aujourd'hui le Gaillet-Gate. On ne peut évidemment que spéculer sur le règlement de compte qui a dû avoir lieu entre eux, mais nul doute que ce dut être une guerre ouverte.
You, pan, pan, pan. Ok, j'ai jamais été très doué pour les bruitages.
Merci pour ce moment Stéphane et cette belle illustration. Valérie Trierweiler est répudiée de l'Élysée selon ses mots. Les 600 clichés officiels où elle figure disparaissent soudainement de la photothèque de l'Élysée. Puis dans les colonnes de Paris Match, sa maison, Valérie Trierweiler s'exprime pour la première fois aux Français. J'entendais des rumeurs évidemment, mais on entendait sur tout le monde. J'en entends sur moi aussi tout le temps. Je n'y prêtais pas attention. Lorsque j'ai su, c'est comme si j'étais tombé d'un gratte-ciel. Oui, tombé d'un gratte-ciel, Stéphane. Je suis sûr que ces mots vous ont bouleversé. Essayez un peu que diable pour équilibrer mon papier.
Mais elle m'a tellement ému, oui.
Merci. Décrite par le staff de l'Élysée comme impulsive et surnommée avec élégance la Rottweiler, la garde rapprochée de François Hollande s'attend à tout. Et elle a raison de craindre le pire, car assez vite, Valérie commence à parler. Le monde attend... observe et retient son souffle, comme à la crêperie quand le serveur s'apprête à flamber la banane au rhum. La flambée arrive le 4 septembre 2014 avec un ouvrage au titre prenant la phrase que je lance toujours à la fin d'un massage thaïlandais réussi. Merci pour ce moment. Ouvrage élaboré dans le plus grand secret sur un ordinateur déconnecté d'Internet avant d'être assemblé dans une imprimerie clandestine allemande. C'est un succès. Valoche écrase à plate couture 50 Shades of Grey. Plus de 600 000 curieux s'arrachent le pamphlet au grand agacement de certains libraires qui affichent des panneaux où on peut lire « Non, merci pour ce moment. Désolé, nous n'avons plus le livre de Valérie Trierweiler, mais il nous reste Balzac, Dumas, Maupassant. » Évidemment, outre la tromperie, Valérie balance 2-3 scuds de portée politique, comme celui des 100 ans, on s'en souvient. Mais en réalité, les conseillers du président respirent, ils s'attendaient à pire. Le récit aurait en fait été édulcoré par l'éditeur. Mais attention, Stéphane, Valérie aurait au cas où sauvegardé sur un ordinateur toutes les photos privées et toutes les correspondances avec le président pour un éventuel tome 2. Il y a quand même, Stéphane, une autre lecture possible de toute cette histoire. Ne faites pas nom de la tête, il y en a une relecture féministe de cet acharnement médiatique. Car longtemps, la vengeance masculine a évoqué la figure de Monte Cristo. C'est assez classe de se venger pour un homme. Mais qu'une femme commence à faire du bruit et à se répandre pour venger son honneur, là on ricane, voire on crie à l'hystérie. Vu sous cet angle, on peut soutenir que le comportement jugé excessif, voire déplacé par certains de Valérie Trierweiler, n'est pas inutile d'un point de vue sociétal. Il dit aux femmes « Osez la vengeance publique », il dit aux hommes « Eh ouais les gars, ça fait 5000 ans que vous cocufiez à tour de bras en misant sur le fait que la femme préférera toujours le silence à l'humiliation. En vous prouvant l'inverse, Valérie Trierweiler vous incitera peut-être à réfléchir un peu plus la prochaine fois que vous songerez à tromper madame. »
Je veux pas dénoncer quelqu'un.
Non. C'est quoi ?
Je connais quelqu'un à Europe 1.
Non, non, Stéphane, on a plus le temps. Dieu reconnaîtra les siens. N'oubliez pas votre casque, David.
Merci beaucoup, Mathieu. C'était 99% vrai. Vous avez commis quand même une erreur.
Dites-moi.
François Hollande n'a jamais été marié avec Ségolène Royal.
Ah oui, c'était sa compagne, c'est vrai. C'est une grosse erreur. Oui. Un point en moins dans le quiz, pour moi. Ça n'a pas d'incidence, mais c'est ainsi.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos assoiffés de vengeance pour entrer dans l'ultime demi-heure d'historiquement vôtre, celle de la réconciliation.
Oh oui, Stéphane, la réconciliation du passé et du présent. D'où vient cet objet, cette expression ou encore ce plat dont on raffole quand l'histoire éclaire notre quotidien? Olivier Pouls entre en piste avec un plat de vengeance qui se mange froid.
Mais oui, le gazpacho, plat espagnol évidemment. Vous verrez la trajectoire un peu originale et surprenante.
Le mot de la fin reviendra à Stéphane. Chaque jour, l'histoire d'un mot qu'on utilise sans connaître ses origines, hécatombe.
Oui, pourquoi on dit hécatombe quand il y a un drame ?
Eh bien, je ne sais pas, mais vous allez me le dire, Stéphane, puisque vous êtes payé pour.
Ah, c'est
vrai. Et tout de suite, mais n'oubliez jamais. Et tout de suite, les origines. Ça, c'est l'histoire d'un objet. L'origine d'un objet qu'on utilise. On est deux à utiliser autour de cette table tous les jours.
Oui.
Le casque intégral de moto.
Le casque à moto en général. Je parlerai un petit peu du casque intégral aussi.
16h, 18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre, le rendez-vous des curieux de l'histoire avec David Castello-Lopez, le jeune de la bande. Hein, Stéphane, on peut le dire, il est très très jeune et il s'intéresse pour nous aux origines des objets qui font notre quotidien. Aujourd'hui, David.
Ben, le casque à moto.
Le casque à moto.
Voilà. La plupart des gens, hein, je pense, pas tous, mais quand même la plupart, ils sont d'accord pour dire que quand c'est possible, c'est mieux d'être en vie que d'être mort. Le truc, c'est que les gens ont beau considérer ça, ils font souvent des choix qui rendent le fait de rester en vie beaucoup moins probable, comme par exemple fumer, ou rejoindre Daesh, hein, par exemple, ou encore, et c'est là où je veux en venir, faire de la moto. Faire de la moto en France, c'est 22 fois plus dangereux que de faire de la voiture. Or, faire de la voiture, c'est déjà une activité assez dangereuse. Mais il y a un temps où c'était bien pire encore, à savoir l'époque où on pensait que les os du crâne étaient une protection tout à fait satisfaisante contre le bitume. Or, on l'a appris depuis, ce n'est pas vrai. Hein. Mais cette période, elle a bien existé. Entre l'invention de la moto à la fin du 19e siècle et 1914, il n'y avait pas de casque. Voilà. En 1914, il y a un premier casque qui a été inventé, mais qui était utilisé surtout dans les courses de moto. Et résultat, les gens se baladaient encore sans casque un peu partout et ils mouraient dès qu'ils se viandaient. Pour parler de la suite, il va falloir que j'introduise un personnage historique hyper connu qui est Thomas-Édouard Laurence, dit Laurence d'Arabie. Vous connaissez tous Laurence d'Arabie,
autour
de cette table.
Tout de même.
Laurence d'Arabie, c'était un officier britannique auquel on a demandé pendant la Première Guerre mondiale de faire la liaison entre l'armée anglaise et les armées arabes, hein, dans le but de casser la gueule à l'Empire ottoman. Il était super fort, il était super charismatique et un petit peu prognate aussi, ça n'a rien à voir, mais il était un peu comme ça. Bon voilà, j'aime bien le noter. Et surtout, il a écrit...
Il
fait bien le prognate en radio, c'est important de savoir faire le prognate.
Mais on a senti dans ma voix que j'étais prognate, c'est ça.
Ouais, c'est vrai. Il y avait un petit côté Michel Simon qui était là aussi pour...
Et surtout, il a écrit Les Sept Piliers de la Sagesse, qui raconte sa vie dans le désert. Et je me souvenais que d'une chose de Laurence d'Arabie, c'est que mon père m'avait dit qu'il s'était fait violer par ses geôliers turcs et que ça lui avait révélé à lui-même des penchants qu'il ne savait pas qu'il avait. Voilà. Et en faisant les recherches pour cette chronique, hein, j'ai un petit peu un pas de côté, j'ai appris que Laurence avait probablement inventé cette histoire de viol de toute pièce, sans doute dans une sorte de petite perversion sadomaso-exhibitionniste. Quand même, les gens, ils sont super chelous. Mais bon, Laurence, il a continué sa carrière en Angleterre et une des choses qu'il aimait vraiment bien faire, c'était de rouler à moto sans casque. Et un jour, le 13 mai 1935, il est sorti avec sa moto. Et là, il a pas vu qu'il y avait deux jeunes cyclistes qui venaient vers lui. Il a voulu les éviter. Il s'est craché la face et il est mort 6 jours plus tard à cause des blessures qu'il avait à la tête. Et si vous vous souvenez d'ailleurs, c'est la scène d'ouverture du film de Laurence d'Arabie. C'est, il prend sa moto et il se viande. L'un des docteurs qui a traité Laurence d'Arabie, il s'appelait Hugh Cairns, et il a compris que si Laurence avait porté un casque, il ne serait pas mort. Il était un peu traumatisé par cette histoire parce qu'il aimait beaucoup Laurence. Et au début de la Seconde Guerre mondiale, il s'est mis à faire des statistiques sur la moto. Et il a remarqué que presque 2300 motards et passagers de moto étaient morts dans des accidents depuis le début de la guerre. La plupart de blessures à la tête. Mais aucune des 7 personnes qui portaient un casque parmi les blessés n'était mort. Au passage, on voit quand même que 7 personnes qui portent un casque sur 2300, c'était pas tout à fait la même époque. Il a écrit un rapport là-dessus. Et à partir de là, le casque de la moto est devenu obligatoire dans l'armée britannique. Et ça a fait chuter énormément le nombre de morts à moto. Pourtant, il a fallu attendre 1973 en Angleterre pour que le casque soit rendu obligatoire et 1980 en France. Après, petite aparté sur le casque intégral, le premier que j'ai vu, dont j'ai vu la trace, il date de 1967 et c'est donc lui qui a permis justement de protéger le menton et aussi de pouvoir aller faire l'amour avec Julie Gayet de façon incognito. Quand même, juste pour montrer un petit peu l'efficacité du casque à moto, ça sauve quand même énormément de vie. Aux États-Unis, depuis 2002, on estime qu'il y a 25 000 personnes qui ne sont pas mortes grâce au casque à moto. 25 000 personnes, c'est quand même la population de Vichy, par exemple. Donc quand même, bravo, le casque à moto. Olivier, vous m'avez dit avant cette chronique...
Il y a certains États aux États-Unis dans lesquels le casque n'est toujours pas obligatoire. Quand vous faites la route 66 sur une belle grosse Harley, vous avez des types cheveux au vent. Ouais. D'ailleurs, le rebelle, hein, célèbre Lorenzo Lamas, dans la série, n'a jamais de casque.
Tom Cruise dans Top Gun non plus.
Mais ça c'est l'idée, c'est la liberté, quoi, la liberté totale, y compris celle de se tuer
en moto. Merci David.
C'est obligatoire.
On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et sur le site europe1.fr.
Mettez vite votre casque, Olivier, pour nous préparer.
Ça
toque pour un bon gazpacho, le plat de la vengeance qui se mange froid.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Clémentine Portier-Caldebac n'est plus avec nous, c'est dommage, elle aurait pu nous imiter avec sa bouche le son des castagnettes pour évoquer et introduire votre sujet du jour aujourd'hui, Olivier Pouls, le gazpacho.
Oui.
D'où vient-il ?
Eh bien, c'est un plat qui, comme vous le dites, se mange froid, et c'est un plat qui a une origine assez amusante. C'est un plat qui vient d'Andalousie, hein, du sud de l'Espagne, et qui a très longtemps été très mal considéré par la haute société. C'était un plat vraiment paysan et qui était à l'origine l'idée de recycler notamment le pain. Et la recette du gazpacho telle qu'on la mange aujourd'hui n'a strictement rien à voir avec ce qu'elle était à l'origine. À l'origine, au Moyen-Âge, on récupérait les morceaux de pain rassis, on mettait de l'eau par-dessus pour le ramollir, une gousse d'ail écrasée, éventuellement un petit peu d'huile d'olive et un petit peu de vinaigre de xérès, et on mangeait cette espèce de bouillie qui était le gazpacho de l'époque. Donc rien à voir.
Il y avait pas de tomate.
Eh ben non, parce que la tomate, elle arrive au XVIe siècle seulement en Espagne.
Hermann Cortés.
Voilà, exactement. Et donc avant, il y a pas de tomate, il y a très peu de légumes, et c'est véritablement
l'ail, le pain. Il y a pas de frigo pour maintenir le gazpacho au frais.
Alors il est mangé à température ambiante. C'est l'Andalousie est une région très chaude aussi, donc on a besoin en été de se rafraîchir, pas besoin de chauffer, ça se mange parfaitement bien comme ça. Et puis, il y a, comme vous le dites, Hermann Cortés, le XVIe siècle, l'arrivée de la tomate et d'un certain nombre d'autres légumes, les poivrons par exemple, qui vont commencer à se développer, et la recette du gazpacho va complètement changé. On peut même considérer que c'est au XIXe et au XXe siècle que le gazpacho tel qu'on le connaît là va connaître sa réalisation. Au départ aussi, il n'y a pas de mixeur, il n'y a pas de blender. Donc, les premiers gazpacho à la tomate, au poivron, etc., c'est une espèce de concassé de ces légumes qui sont effectivement servis froids sans qu'on ait besoin de les chauffer. Et puis arrivent les techniques modernes, le mixeur, le blender et le gazpacho tel qu'on le connaît, qui va seulement commencer à voyager dans les années 1930. Voyez-vous, c'est très tard, c'est un plat qui est resté très local, alors espagnol, on va dire, puisque notamment Eugénie, qui était l'épouse de Napoléon III, qui était d'origine du sud de l'Espagne, avait fait la promotion du gazpacho dans toute l'Espagne, mais on n'en mangeait pas beaucoup dans d'autres régions du monde. Et c'est vraiment à partir des années 40-50 que le gazpacho va devenir un des emblèmes de la cuisine espagnole et va s'exporter, avec toujours cette idée de respecter une forme d'équilibre. Vous savez, la rondeur d'une tomate bien mûr, un peu sucré d'ailleurs. Vous avez le végétal du concombre, l'acidité du vinaigre qui est très important dans le gazpacho, le piquant avec un petit peu d'oignon, et puis voilà, tout ça mixé. Mais, nous sommes en hiver.
Eh oui, pas de tomate.
Donc je vous propose une petite recette, un pas de côté, on va dire, hivernal, avec un gazpacho de tomate, lait de coco et épices.
Si vous utilisez des tomates en hiver, Olivier, je vais vous virer.
Vous allez.
Oui, ça va assez vite avec moi.
Oui, je sais. Je ne vous ferai pas le gazpacho. Tiens, j'en ferai pour les autres. Alors, vous allez prendre 400 grammes de tomates que vous aurez cuites.
De carottes, pardon.
Vous aurez cuites à l'eau. J'ai une obsession avec la tomate aujourd'hui. 400 grammes de carottes cuites à l'eau. Vous récupérez 100 millilitres de ce bouillon de cuisson qui est un petit peu parfumé. Laissez refroidir tout ça. 400 millilitres de lait de coco. Une gousse d'ail. 2 cuillères à café de curry. Un peu de coriandre ciselé, un peu d'huile d'olive, un trait de jus de citron qui remplace le vinaigre de Xérès dans ma recette, sel, poivre. Alors la recette, c'est hyper simple, hein, dans le bol d'un blender, vous allez mixer tout ça, vous gardez la coriandre de côté pour la décoration, vous équilibrez bien avec le jus de citron et vous allez avoir voilà quelque chose d'un petit peu asiatique, un peu parfumé avec ce curry, ce lait de coco. Vous saupoudrez tout ça à la fin de coriandre ciselé et évidemment, vous gardez ça au froid parce que vous le servez comme un gazpacho, c'est-à-dire froid comme une entrée.
Superbe. Merci Olivier. On peut retrouver toutes vos recettes sur le site europe1.fr.
Stéphane, vous êtes prêt pour le mot de la fin ?
Oui, c'est l'hécatombe.
Oui.
16h, 18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Une nouvelle année a démarré, les amis, et comme la précédente a été assez douloureuse pour tout le monde, Stéphane tient à nous proposer des mots joyeux qu'il décrypte chaque jour dans le mot de la fin. Le premier mot que vous avez choisi, c'est hécatombe. Hécatombe, d'où vient ce mot funky qui nous donne envie de rire ?
D'où vient le mot hécatombe ? Oui, je sais Mathieu, vous serez en train de me dire, Stéphane, fais un effort quand même, c'est le début de l'année, trouve-nous des expressions joyeuses et sympathiques. Moi je vous réponds, je fais ce que je veux.
C'est vrai que vous avez servi ici des expressions plus guirettes. Hécatombe, on sent que ça vient du grec, on le sent.
Votre intuition est bonne, on voit souvent que vous avez fait des études. Tous les ans, une cérémonie religieuse était célébrée le premier mois du calendrier grec antique qui correspondrait aujourd'hui entre le 22 juin et le 22 juillet. On appelait cette période de l'année le mois d'Hécatombéo, qui signifiait littéralement « sans bœuf ». Hécato.
Sans bœuf, mais vous l'écrivez comment ?
Comme sans, le chiffre 100.
Ah, le chiffre 100,
Hécatone, c'est 100.
D'accord.
Voilà. Et donc, il y avait en effet, à ce moment de l'année, une tradition, celle de rassembler 100 bêtes à cornes, je parle des bœufs, sur la colline de l'Acropole d'Athènes.
Et pas 100 cocus, c'est ça que vous voulez dire.
Et de jeter sur eux une pâte faite de farine, de sel et d'eau, avant de les sacrifier en l'honneur de la déesse d'Athènes, Athéna. Le mot se popularise rapidement, témoin l'Iliade d'Homère, où l'on retrouve la mention de l'hécatombe pour parler de la disparition de 12 bœufs et 50 béliers. Ce qui est un peu ridicule, puisque hécatombe, c'est 100.
Oui, donc ça n'a plus de sens.
Il y en a moins, ça n'a pas de sens. Au XVIe siècle, on se sert de la formule pour parler de nombreuses pertes humaines, et l'histoire, malheureusement, donnera moult occasions d'employer l'expression. Aujourd'hui, c'est vrai, on utilise autant hécatombe pour parler de victimes d'accidents de la route que des blessés dans une équipe de foot. On dit, ce match, ça a été une hécatombe. Bon, quoi qu'il en soit, je voulais terminer par un sourire. Avec une citation, celle de Marc Lévy, issue d'un roman appelé « La prochaine fois », il écrit « Quand on dit « mort au con », il faut être prudent, il y a un vrai risque d'hécatombe ». Difficile, sur ce coup-là, de lui donner tort.
Sacré Marc Lévy. Oui. Comme Stéphane, le jour où il a appris dans Télépoche que Nagui lui avait shippé le titre d'animateur préféré des Français, ils se sont exclamés
« Vengeance !»
Stéphane, qui de nos assoiffés de vengeance vous a le plus étonné aujourd'hui?
Oh, assurément, oui. Sylvine Rubinstein.
Oui, moi aussi, on est d'accord là-dessus.
Non, on est tous d'accord. Les auditeurs vont se jeter sur les danseurs de l'aube.
Et si Quentin Tarantino, qui nous écoute avec beaucoup d'assiduité, a entendu cette histoire, à mon avis, il a déjà le scénario d'Inglourious Bastard 2.
Ah, je suis d'accord.
Demain, au programme Stéphane, on parle caricature.
Oui, demain, ça frise la caricature. Enfin, ils ont défrisé la caricature à leur manière. L'un des premiers, le caricaturiste Honoré Daumier. Et le regretté Cabu.
Quant à moi, je vous parlerai d'un acteur qui a réussi l'exploit de se caricaturer lui-même, si on veut. Qui est vraiment Chuck Norris? Je sais que vous ne vous êtes jamais posé la question. J'y répondrai pourtant, Stéphane.
Eh bien, à demain, Mathieu. À demain, chers auditeurs.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.